Je ne sais pas si vous êtes présentement en recherche d'emploi. Vous avez peut-être consulté le site Jobboom récemment. Bon, ce n'est pas le seul qui existe, mais je lisais un article sur Jobboom qui présente les 12 valeurs des travailleurs au Québec. Donc, qu'est-ce que les travailleurs québécois, en majorité, considèrent comme important dans le contexte du travail, on s'entend? Et premièrement, même si c'est en ordre d'importance, le climat de travail. Il semble que c'est une valeur très importante que l'ambiance soit bonne. L'argent. Bon, on ne s'étonnera pas que ça arrive en deuxième position. Le plaisir, de trouver un certain plaisir dans le travail qu'on fait. La reconnaissance. Donc, savoir qu'on est, utile et on se le fait dire. On le ressent qu'on sert à l'entreprise. Le dépassement. Donc, qui est une forme de défi dans le service que l'on fait. L'authenticité. On veut sentir que la mission de l'entreprise est réelle puis on n'est pas en train de travailler pour rien. L'éthique, on veut. Tous les Québécois ont une forme de. Un désir de justice. Quand je parle des Québécois, là, je parle de toutes les nationalités représentées là, au Québec. La soif d'apprendre, il paraît que c'est une valeur importante. La santé, le bien-être, donc on n'aime pas travailler dans un milieu où on met notre santé en péril. L'ouverture, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être que ça nous ouvre à d'autres possibilités. Le prestige, donc, on veut pouvoir se péter les bretelles un peu de l'emploi qu'on a. Et l'implication sociale. On sent que c'est important si l'emploi qu'on occupe a un impact positif sur la communauté où l'entreprise est. Bon, on peut dire que c'est quand même de bonne valeur. Et l'Église est parfois représentée, on fait parfois un lien ou une comparaison, une corrélation entre l'Église et une entreprise, puisqu'on est... On a tous une tâche, on est au travail. Mais est-ce qu'on peut directement appliquer toutes les valeurs des travailleurs dans le contexte de l'Église et uniquement ces valeurs-là? Je pense que non. Certaines peut-être sont bonnes, sont bibliques. Mais est-ce que les valeurs d'un serviteur chrétien, un serviteur de Dieu, sont les mêmes? Qu'est-ce que la Bible en dit? Et je vous invite à tourner avec moi dans Romains 12. Donc, c'est une courte méditation. Aujourd'hui, on va survoler une liste de valeurs chrétienne. Donc, c'est des valeurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu considère important? Et qu'est-ce que le serviteur de Dieu devrait considérer important dans son service? Romains, chapitre 12. Romains, tout de suite après les Évangiles, après Actes. C'est la première des lettres. Nous allons lire les versets 1 à 13. Romains 12, vous y êtes? Versets 1 à 13. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et bien que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, mais que ce soit en accord avec la foi, ou selon l'analogie de la foi. Si c'est le diaconat, ou le service, le ministère, bien que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui préside, avec empressement. Et celui qui exerce la miséricorde, avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Alors, c'est toute une liste, hein? Et l'apôtre Paul continue par la suite avec d'autres recommandations, des exhortations concernant le comportement du chrétien, mais plus face aux non-croyants, donc à l'extérieur de l'Église. Mais ce matin, on va se concentrer uniquement aux recommandations, aux exhortations du comportement du chrétien, de son service dans l'Église, donc envers les frères et sœurs, le service envers les frères, envers l'Église. Donc, en partant, on peut voir que ce n'est pas exactement le même système de valeurs qu'un système de valeurs qu'on trouverait dans une entreprise, donc chez les non-croyants. Même dans un organisme à but non lucratif, là, un organisme de bienfaisance, ceux qui vont faire du bénévolat n'auront pas nécessairement les mêmes valeurs que les chrétiens dans l'Église. L'Église est vraiment comme une société distincte, si on peut dire. Société nouvelle, créée en Jésus-Christ, avec un système de valeurs propre, un système de valeurs que Dieu lui donne par son Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul commence dès le début en disant « Soyez, ne vous conformez pas au monde présent ». Donc, à l'époque, là, il écrit aux gens qui habitent à Rome, il y avait des valeurs propagées dans la société. Les gens considéraient telle ou telle chose importante. Paul dit, ne vous conformez pas à cela. Si tout à coup, il y a une nouvelle vague qui arrive et qu'il y a une valeur qui est très importante, faites attention, ce n'est pas ça qui doit être notre guide. Soyez, au contraire, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce n'est peut-être pas naturel. À notre naissance, on n'a pas nécessairement ces valeurs-là en nous. Ce n'est pas inné. Notre intelligence doit être transformée. Le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, survolons ce matin. Peut-être vous en aurez noté plus ou moins, mais j'ai noté 10 valeurs qu'on va parcourir. 10 valeurs qui se dégagent dans ce texte. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on sert dans l'Église? Quelle est notre motivation première? Bien, on sert parce qu'on est en train d'offrir un sacrifice d'adoration à Dieu. Wow! Ça, c'est vraiment différent de tout organisme, tout un regroupement dans le monde. On sert le Dieu créateur. C'est pour ça qu'on sert. Toute activité dans l'Église, comme on en a vu la liste dans les 8 départements ce matin, toute autre activité même qui n'est pas organisée ou structurée, mais toute activité que le chrétien fait envers ses frères pour l'Église, il le fait pour Dieu. En tout cas, il est censé le faire pour Dieu. Donc, ce n'est pas d'abord à propos de nous, ce n'est même pas à propos de nos frères, c'est à propos de Dieu. Et là, on a commencé notre lecture dans le chapitre 12, mais vous avez sûrement déjà lu la lettre aux Romains, et les 11 premiers chapitres, le chapitre 1 à 11, sont dédiés à nous montrer l'œuvre magnifique que le Seigneur a fait pour nous, l'œuvre de salut que Dieu a fait pour nous. Comment il nous a sauvés. C'est pour ça que Paul ici dit qu'il exhorte les frères par les compassions de Dieu. Combien Dieu a eu compassion de nous, combien sa grâce est grande. C'est pour ça qu'on veut le servir, en reconnaissance. Et dans les premiers chapitres dans Romains, on voit où Dieu est allé nous chercher. Il ne faut pas l'oublier, ça. Nous étions tous pécheurs. Nous avons tous péché contre Dieu. Nous avons tous péché contre le Dieu créateur. Nous avons fait ce qui lui déplaît. Et on lit dans le chapitre 1 qu'à cause de ça, tous les hommes, en partant, sont sous la colère de Dieu. Une colère justifiée. Pas parce que Dieu est capricieux. C'est justifié qu'il soit en colère, que sa propre créature, qu'il a façonnée de ses mains, se rebelle contre lui. La colère de Dieu se dévoile. Et ce qui conduit un jour à son jugement saint. Et tout homme, en partant, s'il n'y a rien qui change dans sa vie, se dirige vers le jugement de Dieu. Et au chapitre 3, on lit que c'est même la condamnation qui l'attend. On a même déjà le verdict à l'avance. Lorsqu'on passera devant le trône du juge, le verdict est déjà annoncé. C'est que tous ceux qui ont péché seront condamnés, seront déclarés coupables. Et ce qui en résulte de cela, c'est d'être privé de la gloire de Dieu, au chapitre 3. Au chapitre 6, on lit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'être coupé de la source de vie pour l'éternité. C'est une mort éternelle. C'est grave. Mais Dieu nous a aimés. Et il le prouve, on lit au chapitre 5, « Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Le Dieu créateur, Dieu le Fils, est venu sous la forme d'un homme mourir pour nous. Il est mort pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. Couverts, qu'on lit au chapitre 4. Que nos péchés, qui sont bien réels, c'est pas comme s'ils n'existaient plus, mais ils ne sont pas mis à notre compte, ils ne sont pas imputés à notre compte. Ils sont mis, pour ceux qui croient, ils sont mis sur le compte de Jésus, qui a payé le prix fort, qui a payé de sa vie sur la croix pour payer pour nos péchés. C'est toute une œuvre que Dieu a accomplie pour qu'on soit purifié, rendu saint. Et nous sommes, lorsque nous croyons en Jésus, lorsque ce processus-là prend effet, que nos péchés sont mis sur le compte de Jésus, nous sommes déclarés justes, nous sommes justifiés. Et Dieu nous voit comme saints, justes à ses yeux. Et il prend plaisir même à notre présence. Et nous qui sommes sauvés, nous sommes alors épargnés du jugement de Dieu, sauvés de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qu'on lit au chapitre 8. Et donc, s'il n'y a pas de condamnation, on ne se dirige plus vers la mort éternelle, mais vers la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est à cause de la grande compassion que Dieu a eue pour nous, le grand amour, la grâce, que nous devons nous répéter constamment. C'est bon de se rappeler cela, même à tous les jours. C'est à cause de cela que nous servons. Donc, le service, normalement, devrait être fait par des chrétiens. Ça va de soi. Tout service dans l'Église envers les frères devrait être fait par quelqu'un qui peut dire « Je crois en Jésus, je sais que je suis sauvé. » C'est pour ça qu'on ne va pas engager un musicien professionnel qui ne connaît pas le Seigneur, ou un technicien de son qui ne connaît pas le Seigneur, ou on ne va pas engager des spécialistes de l'enfance pour enseigner à nos jeunes en bas. C'est les chrétiens qui servent les chrétiens, puisqu'ils le font pour servir Dieu. C'est vraiment à la base du service chrétien. Mais on peut l'oublier, malheureusement, et on peut facilement, tout à coup, faire des tâches dans l'Église, en trouver une certaine satisfaction, en oubliant pourquoi on est en train de le faire, qui on est en train de servir. Il faut se le rappeler. C'est important. La deuxième valeur, ici, qu'on peut voir dans le texte, c'est que ce n'est pas une obligation. C'est une forte recommandation, c'est sûr, là. La Bible nous exhorte. Mais le Seigneur ne va pas dire... OK, tu as le droit d'entrer au ciel puisque tu as fait telle action, tel service. C'est par pure grâce qu'il nous a sauvés. Nous ne servons pas parce que nous espérons gagner une place au ciel. Nous servons Dieu parce que déjà notre place est là. Et Dieu veut notre cœur. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas qu'on essaie de gagner des points pour avoir suffisamment de points pour entrer au ciel ou gagner sa faveur ou acheter notre place au ciel. Il veut qu'on le serve parce qu'on l'aime, parce qu'on est reconnaissant. Donc, c'est sur une base volontaire qu'on sert. C'est pour ça que Paul, il dit, regardez-vous vous-même, offrez à Dieu un culte raisonnable, un culte auquel vous avez réfléchi, un culte qui est logique, où vous êtes convaincu vous-même de vouloir servir Dieu dans tel ou tel ministère, et vous vous offrez à Dieu. C'est servir de bon cœur. Lorsqu'on sert parce qu'on est obligé, parce que si on avait d'autres choix, on ne le ferait pas, est-ce qu'on est vraiment en train de servir Dieu? Ou si on sert de manière hypocrite. Ça semble évident que non. Dieu, on pourrait se tromper, là, puis se convaincre que Dieu regarde les actions qu'on fait, puis de toute façon, il va être content. Mais non, Dieu regarde le cœur. Il a dit dans l'Ancien Testament, même à ceux qui offraient des sacrifices, qui allaient offrir des offrandes sur l'autel, il disait, « J'en veux pas de vos sacrifices si le cœur n'est pas là. C'est pas ça qui me fait plaisir. Je veux que vous me serviez de tout votre cœur. » Comme Jeanne l'a récité ce matin, qu'on adore Dieu de tout notre cœur, qu'on l'aime de tout notre cœur, toute notre force. Donc, il s'agit d'offrir un culte qui est raisonnable, un culte qui est réfléchi. Et c'est pour accomplir la volonté de Dieu qu'on le fait. C'est pour ça que vraiment, on déclare que c'est Dieu qui est le chef. Jésus est à la tête de l'Église, puisque tous les services, toutes les activités de l'Église servent à accomplir la volonté de Dieu. Pour lui être agréable. On veut qu'il soit content de ce qu'on fait. On veut lui faire plaisir. Nous offrons notre corps à Dieu en sacrifice. C'est une expression forte, ça veut dire notre corps entier. Pas un sacrifice où on perd la vie, un sacrifice mort. Je me souviens de quelqu'un récemment qui était venu me voir puis qui est arrivé sur ce verset-là. Il dit, est-ce que ça veut dire que si on veut plaire à Dieu, il faut se suicider? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un sacrifice où on meurt. Les sacrifices de mort, c'était donné dans l'Ancien Testament où des animaux perdaient la vie à cause des péchés des hommes qui demandaient pardon à Dieu. Mais maintenant, le sacrifice de mort qui a été donné une fois pour toutes, c'est le sacrifice de Jésus. Il n'y en a plus besoin maintenant. Son sacrifice est tellement d'une valeur immense que c'est bon pour tous les péchés qu'on pourrait avoir commis. Il n'est plus question d'offrir un sacrifice pour le péché maintenant. Ce qu'on offre, c'est un sacrifice en offrande, un sacrifice vivant, où on vit pour Dieu. Donc, notre corps, on le voit ça dans les premiers chapitres de Romains, le corps est quand même attaché au péché. Et même une fois devenu chrétien, on n'est pas encore délivré de cela. Le cœur, la racine, est encore mauvais. On a hâte, on espère qu'il va venir rapidement le jour où va nous être donné un nouveau corps, totalement libéré de cela. Plus de tentations, plus de mauvais désirs. Mais le corps est encore malheureusement attaché au péché. Mais ici, ce qu'il nous demande, c'est d'utiliser le corps qui normalement sert à assouvir nos mauvais désirs, entre autres. Mais de le consacrer à Dieu. De dire, je vais arrêter d'utiliser mon corps, ma pensée, ma parole, les sentiments que j'entretiens, tout ce que je fais avec mon corps, avec mon cerveau, avec tout mon être, je vais arrêter de l'utiliser. Je prends la décision de ne plus l'utiliser pour faire le mal, pour faire ce qui est mauvais, pour faire rencontrer mes désirs que je sais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et j'offre mon corps à Dieu, au service à Dieu. Donc, on se rend compte que, ici, dans le contexte, c'est le service à l'Église, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est toute notre vie, finalement. Ça touche. Finalement, on est en service pour l'Église, on est en service pour Dieu, même lorsqu'on n'est pas physiquement ici. Même lorsqu'on est à l'extérieur, en train de travailler, en train de parler à nos voisins, en train de fêter un anniversaire, en train de couper notre pelouse. Peu importe ce que l'on fait, on devrait toujours se voir comme étant en service. Puisqu'on offre à Dieu notre corps, toute notre vie, comme un sacrifice qui lui est agréable. Pour ça, ça va avec la troisième valeur. Pour que le sacrifice lui soit agréable, notre service devrait être un service saint. Saint, littéralement, ce que ça veut dire, saint, ça veut dire mis à part. Pour Dieu. On étudiait la semaine passée à la réunion de prière, quand Anne a offert l'enfant Samuel, que Dieu lui avait donné en réponse à la prière, et elle l'a offert au temple, où il a été consacré à Dieu. Il est comme devenu, ce qu'on peut dire, saint, mis à part pour Dieu, pour le service, pour toute sa vie. Mais c'est ça le genre de sacrifice qui va plaire à Dieu. Notre service doit être saint. C'est quoi l'implication pratique de cela? Ça veut dire qu'on ne devrait plus, par notre vie, servir d'autres dieux. Notre service pour Dieu devrait être exclusif. Mais c'est très facile de tomber dans le service de d'autres dieux. Et Jésus nous met en garde, on ne peut pas servir le Dieu créateur et servir en même temps le Dieu de l'argent, mammon. L'argent peut devenir un Dieu que l'on sert en même temps. Mais à ce moment-là, si on sert en même temps que Dieu, ça veut dire que le service qu'on offre à Dieu n'est pas saint. On a un cœur partagé. Ça ne veut pas dire de ne pas gagner sa vie. Mais c'est notre but dans la vie, si on pense réussir notre vie en accumulant beaucoup de biens, c'est là qu'on est en train de servir un Dieu. C'est une illusion, en fait. C'est une vanité, comme dirait Salomon. On peut être en train de servir le prestige, la gloire, la renommée, d'être populaire. On peut être en train de servir des désirs charnels, des passions, de bonnes choses, mais qui deviennent exagérées. Les loisirs, le sport, Netflix. Il faut que je fasse attention à ça, moi-même. Mais on peut être en train de servir des choses qui deviennent tout à coup des dépendances. Même d'avoir l'affection de nos amis. On peut devenir comme un dépendant affectif. On peut être en train de nourrir quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc, il y a des indices qui peuvent pointer à cela. Lorsque tout à coup, on arrive à une période dans notre vie où on n'a plus le temps de servir les frères et sœurs à l'Église. On n'a plus le temps pour le service. Ça se peut qu'on arrive à des moments de notre vie où est-ce qu'on a vécu certaines détresses, où les événements font en sorte que vraiment notre horaire est plein, mais c'est bon quand même. Lorsqu'on arrive à un moment où est-ce qu'on pense qu'on n'a plus le temps de servir à l'Église, d'arrêter et de réfléchir. Est-ce qu'il y a une cause derrière cela? Est-ce que je suis en train de servir un autre Dieu, une idole? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de servir Dieu de tout mon cœur? Donc, cette troisième valeur, c'est d'offrir un service qui est saint, la sainteté. Une quatrième valeur qui se dégage du texte ici, c'est l'humilité, d'être humble. C'est rare qu'on voit ça dans le milieu professionnel, hein, qu'un directeur de bureau là, qui cultive la valeur de l'humilité. Mais dans l'Église, ça devrait être la marque d'un vrai serviteur de Dieu. C'est très facile de tomber dans l'orgueil, surtout lorsqu'on fait un bon travail, où des gens nous félicitent, nous applaudissent ou viennent nous taper dans le dos, tu fais un bon travail. C'est facile de tomber dans le piège de chercher sa propre valeur, son identité même, de penser que moi je suis un chrétien parce que je fais tel service, je suis responsable de tel ministère. Le jour où ça va nous être enlevé, on tombe, qu'on n'est plus rien, on n'est plus un chrétien. Notre identité, c'est vraiment qu'on est des gens sauvés par la grâce de Dieu. Mais c'est un piège de vouloir se glorifier soi-même. Et c'est sournois, on ne le voit pas venir. Ça commence petit peu par petit peu. Puis ça fait plaisir. Et tout à coup, on se rend compte qu'on ne sert dans l'Église que lorsque c'est gratifiant. Donc, le travail dans l'ombre, on va éviter ça. Le travail routinier, on va éviter ça aussi parce que les gens, tout à coup, ne s'aperçoivent plus qu'on fait telle ou telle tâche. On va seulement servir lorsqu'il y a un gros projet et un projet vedette. Mais il faut faire attention à cela. Ce n'est pas le genre de service que Dieu aime. Dieu aime un service où on sert avec humilité. Et même dans l'ombre, Dieu le voit ce qu'on fait. Le serviteur humble peut servir lorsque personne ne le sait. Il fait une tâche même qui est un peu une injustice parce que ce n'est pas dans sa description de tâche. Mais il le fait quand même parce qu'il veut faire plaisir à Dieu. Il veut servir ses frères sans même qu'ils le sachent. Mais Dieu le voit ça, il l'apprécie. Et on a un exemple ici. Si Dieu a pourvu à quelqu'un beaucoup de ressources matérielles, il a un grand revenu, ou il a reçu un héritage, il a vendu sa maison, il a fait beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais il a beaucoup de revenus, puis il se voit appelé à donner, c'est peut-être parce que Dieu lui a donné cette responsabilité-là, plus qu'à d'autres. Et bien qu'il le fasse comment? Au verset 8, on lit qu'il le fasse avec simplicité, ou on peut dire avec libéralité. Ça veut dire sans attache, sans espérer recevoir quelque chose en retour, vraiment de bon cœur, sans être frustré, avec joie. C'est vraiment la marque de l'humilité, ça, de pouvoir donner sans attache, sans imposer même des exigences, vraiment de bon cœur, sans recevoir une gloire personnelle, sans sonner de la trompette, dit Jésus, avant de donner son offrande. Et l'humilité se voit, bien sûr, dans l'absence de compétition, de rivalité. Chacun travaille à sa place. Et l'image du corps, c'est pour ça qu'elle est belle. On est tous ensemble dans une cause commune. Le pied ne devrait pas être jaloux de la main. Le nez ne devrait pas être jaloux de l'œil. On ne devrait pas envier ce que l'autre a et qu'on n'a pas. Chacun est précieux pour le corps. Même les amygdales, on ne sait pas trop à quoi que ça sert, mais c'est là pour une raison. Et Dieu dit qu'il donne dans l'Église chaque personne et qu'il l'équipe avec un don qui est une combinaison de capacités spirituelles ou même des talents parfois de naissance aussi. Et Dieu donne à l'Église tous ces gens-là pour un rôle, une fonction qui est précieuse. Donc, on ne devrait jamais être triste, être frustré de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, de ne pas être reconnu pour telle ou telle capacité. Et ça, c'est vraiment faire preuve d'humilité lorsqu'on le fait. Donc, la cinquième valeur qui est vraiment liée à cela, c'est la collaboration. Un chrétien qui sert Dieu ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Ça ne se peut pas de dire, je veux servir Dieu et pour ça, je n'assiste plus à l'Église, c'est fini. Mais non, parce que tu fais partie du corps. Le doigt, s'il est détaché, il n'est plus un membre du corps. On peut être attaché à Christ, qui est la tête, seulement si on fait partie de son corps. Donc, la collaboration, elle est indispensable. On travaille tous pour une cause commune. On est liés, on lit au verset 5, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. On ne peut pas tout faire. Dans une certaine mesure, chacun de nous, on est tous appelés à travailler en équipe, de collaborer parfois avec d'autres ministères, d'autres départements, mais pour que tout se fasse en harmonie. Donc, forcément, les compromis sont nécessaires. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'exhortations à se supporter, à se pardonner, parce qu'on est différent. On peut avoir des points de vue différents. Mais pour que tout fonctionne, ça prend vraiment un esprit de collaboration. Une sixième valeur qui se dégage ici, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il semble qu'il y a une spécialisation. C'est sûr qu'on peut être appelé à servir dans plusieurs ministères, mais il semble que Dieu veut qu'on se spécialise, qu'on excelle dans ce que l'on fait. Que celui qui enseigne, mais s'attache à son enseignement. Celui qui préside, mais il le fait avec empressement. Celui qui donne, mais il le fait. Il donne avec simplicité. Celui qui exhorte, mais il s'attache à l'exhortation. Il persévère dans cela. Ça veut dire exhorter, c'est d'aller encourager, parfois de donner des conseils, parfois de soulever un problème, de reprendre. Mais c'est un bon ministère et on peut développer une habileté à faire cela. Donc, je pense que Dieu veut qu'on se spécialise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plusieurs choses, mais c'est bon de développer le domaine du service où Dieu nous a équipés, nous a donné une certaine habileté et un certain souci aussi. Il y a des personnes qui vont voir un besoin dans l'Église, puis ont à cœur de le régler, ce besoin-là, ça leur saute aux yeux. D'autres ne l'auront pas vu. C'est Dieu qui place un souci dans notre tête qui est différent. On voit des choses, des besoins que d'autres ne verront pas. C'est un bon indice qu'on est appelé à servir dans ce domaine-là, habituellement, si on voit un besoin dans un domaine précis. Une septième valeur, je pense, c'est la fidélité, qui va un peu avec la spécialisation, mais Dieu aime un service qui est fidèle, où on persévère. Puis c'est bien entendu que lorsqu'on fait un service, puis on persévère dans ce service-là, on veut porter du fruit, l'ennemi, Satan, n'aime pas ça. Et il va tenter de nous en dissuader. On va avoir des bâtons dans les roues parfois. Parfois, on va rencontrer des obstacles, des épreuves. Parfois, ça vient de nos propres frères, de l'opposition. Mais Dieu nous dit de persévérer, de s'attacher à son ministère. Il dit même au verset 12 d'être patient dans la tribulation. Donc, quand ça brasse, ça va mal. Là. De persévérer dans la prière. Ça veut dire de persévérer en cherchant en Dieu la force pour persévérer, en s'en remettant à lui. De trouver notre plus grande joie dans l'espérance. Quand tout va mal, on dirait là, que finalement, le service ne va pas bien, on n'est pas apprécié, on a de la critique, on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait faire. On peut quand même trouver une joie, et c'est une joie qui est immensément plus grande que la joie qu'on pourrait même trouver dans le service que l'on fait. C'est la joie de savoir qu'on fait partie du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit de toujours se souvenir de l'espérance qu'on en a. Où est-ce qu'on voit l'espérance dans quel verset? 12. Ah, réjouissez-vous en espérance. C'est là qu'on trouve notre joie. Et c'est une joie qui nous satisfait amplement. Donc, si on se souvient de l'espérance que nous avons, que nous sommes dans la famille de Dieu, nous sommes ses enfants, et que notre place est prête au ciel, là, on va pouvoir supporter même les épreuves et la difficulté du service, parfois, pour persévérer. Parce que malheureusement, si nous servons seulement pour la satisfaction que ça nous rapporte, bien, un jour va venir où est-ce qu'on n'en tirera plus la même satisfaction? Est-ce qu'on va abandonner le ministère pour cela, le service qu'on occupe? Mais si nous sommes joyeux de servir Dieu en servant les frères, si nous trouvons la joie simplement d'être des serviteurs de Dieu, nous allons pouvoir facilement persévérer, même quand ça va mal, même quand c'est difficile. Donc, pour Dieu, un bon serviteur, c'est un serviteur fidèle, et même dans les petites choses. Et on lit dans une parabole là, dans Luc 19 que Dieu va même confier de plus grandes choses si on a d'abord été fidèle dans les petites. Une huitième valeur, c'est le zèle ou l'empressement. Le contraire, ça serait quoi? La paresse ou la nonchalance. On pourrait dire la loi du moindre effort. C'est correct de vouloir économiser de l'énergie. On n'est pas obligé de réinventer les roues à chaque fois, là. On peut mettre le cruise control, là. Mais si notre but, c'est toujours d'en faire le moins possible pour arriver au résultat, à un moment donné, notre ministère va en souffrir. Les frères vont souffrir aussi de notre service qui n'est pas adéquat. Il faut se relever les manches, là. Il faut s'encourager, se brasser un peu. C'est du travail de servir. On ne peut pas juste laisser ça aller, là. C'est vraiment... ça demande du zèle, de l'empressement. Ayez de l'empressement et non de la paresse, qu'on lit verset 11. Soyez fervent d'esprit. Même on pourrait traduire, soyez bouillant. Pas tiède. Servez le Seigneur. Une neuvième valeur qu'on voit ici, c'est d'être... c'est lié à la flexibilité, mais d'être disponible, d'être serviable. Un bon chrétien, là, devrait être serviable. Devrait être disponible pour servir. Disposé, avec un bon cœur. Si un frère est dans le pétrin, là, même si ce n'est pas dans ta liste de tâches officielles, le chrétien veut l'aider, normalement. Un bon serviteur veut subvenir aux besoins de ses frères. Toujours bien disposé. Quand j'étais dans les scouts, là, la devise des scouts, c'est « toujours prêt ». C'est ça. J'étais dans les louveteaux quand je me souviens encore de la promesse que j'avais faite. Je promets d'être... Aïe, 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 j'ai manqué ma promesse. Je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à ma patrie, à mes parents, à la loi de la meute, parce que j'étais un louveteau, et de faire chaque jour un plaisir à quelqu'un, une bonne action. Mais c'est une bonne... c'était un mouvement de scout chrétien aussi, là, c'était bon. Mais d'être toujours prêt, ça veut dire que parfois, tu n'avais pas prévu de rendre service. Là. Tu reçois un appel téléphonique, puis oh! Ça nous coûte là, d'être prêt, d'être disposé, d'être serviable. Puis ça, tous les chrétiens sont appelés à cela, mais ici, Dieu, il dit qu'il donne un don particulier à certaines personnes, d'exercer la miséricorde avec joie. Certains ont vraiment reçu un don spécial pour cela. Ils se spécialisent là-dedans. Ils peuvent servir des frères et sœurs à gauche puis à droite dans l'ombre sans qu'on le sache. Ils viennent faire des travaux à l'église sans qu'on le sache. Ils sont heureux en faisant cela. Mais ça ne nous dispense pas, nous, chacun de nous, d'être serviables. Mais certains ont un don de miséricorde. Et même la miséricorde ici, on peut le voir dans le contexte comme étant d'aller visiter ceux qui sont malades, d'aller encourager ceux qui sont en deuil, d'aller secourir ceux qui ont une détresse, ceux qui ont perdu leur emploi, même de sortir son portefeuille, s'il le faut. Donc, ça nous coûte du temps, de l'énergie, d'écouter, de visiter, d'écrire, de téléphoner, de texter aujourd'hui. Donc, c'est des tâches qui sont souvent faites dans l'ombre, mais qui sont extrêmement importantes. Et la dixième et dernière valeur qui se dégage de tout cela, donc on a vu qu'à la base, ce qui donne la raison d'être de tout le service dans l'Église, c'est notre adoration pour Dieu. Mais l'attitude qui englobe tout ça, c'est quoi? L'amour, c'est ça. C'est une valeur extrêmement importante. C'est fondamental. Un amour sincère pour les frères. On lit au verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie. On ne peut pas faire semblant. Ben oui, on peut. On peut faire semblant d'aimer, mais à la longue, les gens le voient là, qu'on ne les aime pas. Un amour qui est sincère. Et un bon truc, là, c'est justement mon chef scout qui m'avait dit ça quand j'étais petit. Un bon truc pour développer un amour pour les gens, c'est de prier pour eux. Tu pries tous les jours pour une personne, là, pour des besoins spécifiques qu'elle a, il y a un amour qui va se développer. C'est inévitable. Donc, priant pour des frères et sœurs, on va développer un amour pour eux. On va vouloir les servir. On devrait souhaiter du bien aux frères et faire du bien. Avoir en horreur le mal. Si on apprend qu'un frère s'est fait faire du mal, ça devrait nous faire dresser les poils sur les bras, là, sur la tête. On devrait avoir ça en horreur. Donc, c'est sûr que nous, on ne veut pas faire du mal à nos frères non plus. On renonce à toute vengeance. On renonce à vouloir... accomplir sa propre justice en faisant du mal aux autres ou en parlant mal contre eux, la médisance. On renonce à tout cela par amour et on veut les servir pour leur bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Donc, avoir une attitude amicale, un sourire, une salutation, être intéressé à ce que les gens disent. Si on pose la question à quelqu'un, comment ça va? Ah, ça va pas très bien. Ah, c'est bon, bonne journée. Mais être à l'écoute, de s'intéresser, là, ça ne va pas bien. Mais pourquoi ça ne va pas bien? Mais d'avoir de l'amour pour ses frères, un respect. Même ici, on parle d'honneur, d'honorer, user de prévenance réciproque. Ça veut dire de chercher même le confort de chacun. On devrait se sentir mal lorsqu'on est assis et que quelqu'un n'a pas de place et il est debout. On devrait vouloir qu'il s'assoie. Donc, chercher le confort, le bien-être de nos frères, même avant nous-mêmes. Par amour pour eux. C'est vraiment une valeur qui est renversée par rapport au système de valeurs du monde. C'est d'aimer nos frères en premier, d'avoir égard pour eux. Éviter autant que possible de les mettre dans une situation où ils vont être mal à l'aise ou dans l'embarras. On va supporter l'embarras et le malaise à la place de nos frères, par amour pour eux. Donc, le système de valeurs d'un serviteur de Dieu est différent du système du monde, même si on peut retrouver des traces, parce que Dieu a placé en nous la morale, le bien et le mal. Même chez les non-croyants, il y en a qui écrivent des livres dans le monde séculier et il y a des bonnes valeurs, là. Mais ça reste quand même, le système est quand même à la base essentiellement différent du système de valeurs chrétien que Dieu nous a donné. Et c'est le Saint-Esprit qui permet ce renouvellement de la pensée, cette transformation dans notre cœur pour qu'on mette à la bonne place les priorités dans notre vie, pour qu'on puisse servir nos frères vraiment sincèrement et qu'on ait un amour sincère pour eux. Donc, développer ces valeurs-là, ça demande du travail, mais heureusement, ce qui est encourageant, c'est que c'est possible, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Dieu ne dit pas « transformez-vous ». Il nous transforme. En fait, ce qu'il nous demande, c'est de le laisser faire dans nos cœurs, le laisser nous transformer en utilisant les outils qu'il a mis à notre disposition, lire sa parole à tous les jours. Ça va vraiment transformer nos valeurs. De prier, de participer aux activités de l'Église, c'est extrêmement important, la communion fraternelle. Si possible, faire partie d'un groupe, le groupe de jeunes, le groupe des aînés, un groupe de quartier, pouvoir parler, avoir du bon temps, et si c'est possible, même à chaque semaine. Ne nous décourageons pas. Et pour conclure, on va lire la fin de l'Épître aux Romains, Romains 16, verset 25. Romains 16, 25 à 27. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile. Donc, il a le pouvoir de nous affermir. Parce que sinon, on pourrait broncher facilement. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, tenu secret dès l'origine des temps, mais qui est maintenant manifesté par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi, eh bien, à ce Dieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen.